Si vous étiez avec moi le mois dernier, vous m'avez entendu relayer un appel aux bonnes volontés au nom de Marie-Claire Humbert, amoureuse de nature et de toucher-terre. Elle voulait recruter pour la BAC, la Brigade d'aide aux crapauds, dont elle fait partie. Peut-être cet appel a-t-il éveillé votre curiosité ? Ça tombe bien, aujourd'hui grâce à Eure-et-Loire Nature, nous allons en savoir plus. Pour son intervention mensuelle, l'association qui est partenaire de cette initiative a sollicité Pascal Duic, bénévole naturaliste et chef de brigade. C'est lui en effet qui organise les efforts en vallée de l'Eure. Pascal Duic, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter la BAC, donc la Brigade d'aide aux crapauds. Alors ma première question est la suivante. Pourquoi diable les crapauds auraient-ils besoin de notre aide ?
Alors les pauvres, en fait, c'est tout simplement parce qu'ils sont amenés à traverser les routes au moment de la migration prénuptiale et qu'ils ne savent absolument pas comment se comporter face à une voiture jetée à 80 km/h. Vers eux, ils n'ont pas les réflexes, et donc on les aide à traverser.
Dans les dernières émissions de Toucher Terre, on a parlé d'animaux plutôt mal aimés, parce que souvent mal connus du public. C'est le cas du crapaud, typiquement. On a plein d'idées reçues.
Oui, alors c'est marrant, parce que l'idée reçue numéro 1, c'est pas la vision du prince charmant qui peut se transformer. On a plutôt réflexe à faire un pas en arrière quand on voit un crapaud, la plupart des gens. Hein. C'est vrai que c'est gros, c'est flasque, c'est pustuleux, ça donne pas tellement envie. Alors cela dit, quand vous les prenez dans les mains, vous rendez compte que c'est pas gras, c'est pas vraiment flasque, c'est tout doux, c'est même très agréable au toucher.
Est-ce que il y a quand même toujours du côté du grand public une sorte de dégoût ? Souvent, c'est la réaction qu'on a quand on parle des crapauds. Il y a quand même, comme vous dites, un pas en arrière, les gens qui sont un peu dégoûtés par l'apparence et puis par tout le folklore qu'il y a autour des crapauds. Les crapauds, c'est le compagnon des sorcières.
Alors, c'est vrai que bon, tout ça, c'est ancré dans notre culture. Il faut dire quand même que peut-être il y a un moment de rejet qui est dû au fait que c'est un animal qui a su se protéger quand même au fil de l'évolution en ayant un poison efficace contre ses agresseurs qui est en fait dans ses pustules, là, les fameuses pustules. Ce qui fait que par exemple un chien qui voudrait le croquer aurait vite compris la leçon. Et donc peut-être on a encore quelque chose d'ancré en nous qui nous fait savoir que c'est pas bon à manger. Et donc il y a peut-être un premier recul qui est ancestral et instinctif. Après, au plan culturel, je pense que là, c'est la même réflexion qu'il faut qu'on fasse évoluer avec aujourd'hui une vision nouvelle et puis beaucoup plus scientifique des choses, quoi. Un peu comme on a eu une peur du loup pendant des millénaires et puis aujourd'hui on comprend que c'est injustifié vis-à-vis de nous, quoi, tout de même.
Alors, cette brigade d'aide aux crapauds, quelle est son histoire ? Comment et pourquoi est-elle née ?
Alors, brigade d'aide aux crapauds, alors c'est un clin d'œil, bien sûr. Hein, au niveau de l'acronyme. La BAC, pour certains, est bien connue, surtout pour ses interventions. Donc, c'est le service de la gendarmerie nationale qui intervient donc souvent de nuit. Et elle avait ça en commun avec nous, c'est que nous intervenons le plus souvent de nuit, au moment où justement les crapauds sortent. Et puis, ce qui nous avait également incité à adopter ces initiales, là, c'était qu'on s'était rendu compte que, comme pour des raisons de sécurité, on arbore des gilets fluo, et bien au loin, dans la nuit, dans la lumière des phares, on a vu des voitures qui faisaient demi-tour en nous, observant, nous apercevant. Et donc, voilà, on a décidé d'adopter l'acronyme. Mais c'est vrai qu'on doit intervenir de nuit parce que c'est là que les crapauds sortent. On met des gilets jaunes parce qu'effectivement, on opère sur la voie publique, sur des routes qui sont le plus souvent hors agglomération. Donc, on a besoin absolument d'être signalé. Donc, quand on se gare, on met des warnings, enfin, on prend toutes précautions, bien sûr. Ça, c'est pour tout ce qui est ramassage manuel des crapauds, une action qui est soutenue par l'Association de protection des animaux sauvages.
Oui, c'est ça, c'est un collectif finalement.
Voilà. Et puis, donc un collectif constitué à la fois de l'ASPAS, Eure-et-Loire Nature en renfort également sur tout ce qui est sensibilisation, et puis une kyrielle de gens qui sont, à la limite, non inscrits, je dirais, qui ne sont pas forcément adhérents d'associations, mais qui sont des citoyens qui ont voulu nous aider et puis faire quelque chose d'utile quoi, pour la nature.
Hein. Justement, je vous demandais un petit peu la genèse de cette initiative. Quand est-ce qu'elle a été lancée, cette BAC, et après quel constat ?
Alors en fait, ça commence maintenant à remonter aux années 2012-2013. Ça venait d'un constat, c'est qu'il y avait quelques personnes isolément dans la vallée qui, on va dire malades de voir tous ces animaux se faire écraser, avaient décidé dans leur coin de ramasser ces pauvres crapauds et de faire quelque chose pour les aider. Et puis se sont retrouvés, sous la houlette de Eure-et-Loire Nature, à ce moment-là, on avait démarché le conseil départemental, le conseil général à l'époque, qui nous avait épaulés pour installer alors, ce qu'on a appelé un crapaudrome, c'est-à-dire en fait tout simplement un système de bâches qui recueillait les crapauds dans des seaux et qui nous permettait de les faire traverser d'une manière donc un petit peu plus structurée qu'un ramassage manuel. Donc ça faisait déjà des années en fait que des personnes ramassaient des crapauds dans leur coin et voilà, sans se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls en fait.
Alors vous avez évoqué la vallée, c'est vrai qu'on n'a pas précisé votre secteur d'action, un secteur qui ne demande qu'à être élargi, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission.
Oui, ben en fait, ces personnes-là se sont retrouvées entre Chartres et Maintenon.
Donc on parle de la vallée de l'Eure.
La vallée de l'Eure. Alors au-delà, bien sûr, il y a tout autant de mortalité de crapauds, malheureusement, mais on n'a pas encore réussi à mobiliser suffisamment de bénévoles au-delà. Mais enfin, on arrive quand même à commencer à constituer, on va dire, un listing de bénévoles au-delà de Maintenon, mais petit à petit, ça se met en place et on espère justement de recruter tant que possible, quoi.
Alors ces fameuses interventions, vous nous avez déjà un petit peu expliqué le principe. Donc on a ce système de bâches, on recueille les crapauds et on les fait traverser. Alors comment ? Comment vous opérez après ?
Alors quand on avait mis effectivement ce système en place, l'idée c'est que des bâches le long de la voie, des deux côtés de la voie bien sûr, parce que sinon ça serait inutile, conduisent les crapauds qui ne demandent pas trop à passer en dessous, enfin on fait en sorte que ça puisse être infranchissable, jusqu'à ce qu'ils tombent dans des seaux qu'on a à moitié enterrés, qu'on a enterrés même. Et puis, à ce moment-là, le matin, à l'aube, on les récupère, on les fait passer de l'autre côté. C'est là, effectivement, qu'il faut qu'il y ait une bâche à nouveau dans l'autre sens, sinon ils risqueraient de revenir en arrière et de se faire écraser, et même d'être bloqués par la bâche amont. Le fait est que les crapauds descendent de l'amont en allant vers les mares, où ils vont se reproduire au printemps. Et c'est donc sur leur trajectoire que se trouvent ces routes qui sont pour eux alors franchissables quand il y a très peu de trafic, mais quand on est à une période de l'année où coïncide le crépuscule avec l'heure de sortie de bureau, de travail, etc., là c'est des carnages quoi.
C'est le cas particulièrement cette année, vous me disiez que la période de reproduction des crapauds avec cet hiver particulièrement doux a commencé très tôt.
Oui, on avait déjà commencé à le remarquer l'année dernière ou il y a déjà 2 ans. On n'était pas encore trop sûr de nous, on avait pensé peut-être avoir loupé un épisode sans être trop sûr et sans pouvoir chiffrer. Mais là, on a bien surveillé la météo et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu un premier démarrage de la migration fin janvier, début février déjà, ce qui est vraiment très tôt, alors que normalement, on les attend pour début mars, quoi.
D'accord.
Donc, il y a un redoux accompagné de pluie, d'humidité. Ouais.
Vous avez commencé donc vos activités avec la BAC. Est-ce que vous secourez actuellement beaucoup de crapauds ? Vous en faites traverser un certain nombre ?
Alors ça c'est un petit peu tassé, il nous laisse un peu de répit. parce que le froid a un peu retombé, même s'il y a toujours d'humidité, mais il y a beaucoup de vent qui les dissuade un petit peu. Mais on s'attend à ce que ça reprenne, c'est pour ça que là on est en pleine actualité. Et d'un moment à l'autre, ça peut redémarrer. On surveille d'ailleurs la météo au jour le jour pour voir si les conditions sont réunies. Et à ce moment-là, on informe tous les membres de notre collectif par un système de soit de mailing, soit de SMS, quoi, pour que en temps réel, quoi, ils puissent sortir sur le terrain.
Quelles sont les espèces qui sont particulièrement concernées en Eure-et-Loire ?
Oui, alors c'est quand même essentiellement le crapaud qu'on appelle le crapaud commun. Il y a quand même quelques autres espèces de batraciens qui opèrent une migration ou un erratisme au moment du début du printemps comme ça.
Donc ça leur profite aussi de toute façon.
Alors ça va leur profiter. Nous, on en a ramassé comme ça pas mal. Hein. Je crois que sur l'année 2014, on avait ramassé, on avait sauvé plus de 2000 crapauds. Et on avait sauvé une dizaine de grenouilles agiles, grenouilles rousses et puis surtout des grenouilles agiles, des grenouilles vertes. Mmh. Et puis des tritons aussi, des petits tritons. Oui. Qui effectivement en plus sont tellement petits que dans la lumière des phares, vous n'avez presque aucune chance de oui. les distinguer d'une brindille. Quoi.
Justement, je pense aux automobilistes de la vallée de l'Eure qui peuvent nous écouter. Quels conseils on peut leur donner pendant ces périodes de lever le pied ?
Oui, alors je dirais relire le code de la route, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient qu'ils sont censés être maîtres de leur véhicule. Et que lancés à vive allure, ils doivent être capables de freiner à tout moment. Et ça vaut aussi bien pour leur conduite en ville que sur une route de campagne. Être prêt à tout moment à une éventualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Les gens, peut-être aussi pris par l'habitude de rouler toujours sur le même itinéraire, un jour peuvent se retrouver face à un sanglier. Hein. Ça, bien il sûr, faut ouais. se faire à l'éventualité. Alors les crapauds... Il y a un autre problème, c'est que ils sont quand même pas très gros par rapport ouais. à sangliers, et que les gens les prennent pour des feuilles mortes qui oui. se déplacent sur la route, enfin qui bougent sur la route. Alors, il est pas toujours facile de faire la distinction, et c'est pourquoi en fait cette sensibilisation est utile, parce que je peux vous assurer que même moi, en fait, à l'usage, au fil des années, j'ai appris à, on va dire, à avoir l'œil. Exercer pour distinguer une simple feuille d'un crapaud dans toutes les conditions. Quoi.
Est-ce qu'il y a un système de signalisation sur les routes, ou est-ce que peut-être c'est à l'étude d'avertir les automobilistes que, par exemple, ils entrent dans une zone particulièrement sensible pour
oui,
les crapauds ?
Oui, alors c'est fait déjà depuis 2013. Il y a des panneaux qui ont été effectivement posés donc avec l'aide de l'ASPAS, l'Association de protection des animaux sauvages, et avec l'autorisation du conseil départemental, sur le bord des routes, sur les tronçons qui sont les plus problématiques. Et puis, quand la saison démarre vraiment, on rajoute des panneaux de signalisation, type routier, mais on va dire de taille modeste, mais enfin qui sont bien visibles et que les automobilistes doivent comprendre quoi, assez facilement. Donc là, on va bientôt poser... les nouveaux panneaux oui, qu'on a conçus cette année et on vient de recevoir l'autorisation du département pour les poser.
Quel est votre rapport avec ces animaux, les crapauds ? Qu'est-ce qui vous attire particulièrement chez eux ? Pourquoi avoir envie de leur donner un coup de main ? C'est le cas de le dire.
Oui, c'est pas spécialement les crapauds, en fait. J'ai vraiment un souci de sauver autant que faire se peut la biodiversité. Je parle de biodiversité, mais je voudrais généraliser à la nature en général et les animaux. Ça, c'est un moyen concret de sauver des animaux et de faire un geste vraiment concret hein, pour la nature. À une époque où souvent, là, on rabâche beaucoup qu'il faut sauver la biodiversité, les gens ne savent pas trop comment faire. Bon, à part mettre des graines pour les mésanges dans le jardin.
Ce qui est déjà très bien.
Ce qui est déjà sympa, mais aussi à faire avec parcimonie. Et voilà, donc ça, c'est... Et le résultat est immédiat, parce qu'aujourd'hui, on bien se sûr. Rend compte que les effectifs auraient largement chuté si on n'avait pas été là.
D'accord, donc vous avez déjà un semblant de bilan.
On évalue assez facilement, en fait, le nombre d'animaux qu'on peut sauver, en fait, sur un tronçon de 500 mètres, quand on voit les voitures qui passent. Il suffit qu'on ait tourné le dos pour qu'on en voit en fait 10 s'écraser derrière nous si ouais. on n'a pas été assez prompt en fait. Donc ça donne une idée. On peut extrapoler donc aussi la disparition de cette espèce qui déjà aujourd'hui on peut le constater est beaucoup moins nombreuse que par le passé. Ceux qui ramassaient ces crapauds il y a quelques années savaient plus vous donner de la tête. Hein. Certains soirs ils en sauvaient 500. Aujourd'hui on fait à plusieurs sur le même tronçon. En arrivant à en sauver 300, les très grosses soirées, quoi. Mais... Ouais. Donc, il y a quand même, on sent quand même qu'il y a une baisse des effectifs, notamment, bien sûr, à cause des routes, hein. Notamment.
Et la disparition des zones humides, on en a parlé dans cette émission, dans les émissions précédentes. Alors, dernière question de cet entretien, Pascal Duic, comment fait-on pour rejoindre la BAC ?
Alors, vous pouvez contacter, bien sûr, Eure-et-Loire Nature ou l'ASPAS, donc Association de protection des animaux sauvages. qui a des délégations en fait dans un peu partout en France. C'est une association nationale. Et alors on se fera un plaisir même d'accompagner les gens qui veulent démarrer, qui savent pas trop comment faire au départ. Les accompagner sur place parce qu'il faut quand même intégrer quelques règles de sécurité quand il s'agit de faire des ramassages manuels. Mmh. Et si on arrive à être assez nombreux, on pourrait remettre en place un système de bâches, de crapaudrome.
Si je pense à des auditeurs qui nous écoutent dans d'autres vallées, dans d'autres secteurs concernés, on peut leur fournir, j'allais dire, des outils presque pédagogiques pour leur permettre
d'adapter. C'est ça, oui. L'ASPACE propose d'ailleurs des flyers et des dépliants sur le thème des crapauds, comment faire pour sauver les batraciens. Après, c'est vrai que nous, on peut mettre à leur disposition du matériel aussi, des consignes aussi pour la pose d'un crapaudrome pour ceux qui voudraient installer ce système. Sachant qu'on est toujours dépendant du bon vouloir du conseil départemental qui nous autorise bien volontiers, mais après, comme j'expliquais, il y a besoin aussi de main-d'œuvre pour ramasser les crapauds le matin dans les seaux.
Voilà.
Et puis, tout ça, c'est en attendant que peut-être un jour, on ait quand même des dispositifs pérennes qui seraient des vrais ouvrages d'art cimentés sur les bas-côtés de la route.
Comme il en existe
à deux, trois endroits. Mais ouais. Il est vrai qu'on a bien compris que l'entretien, ça coûte cher. Ouais. À une époque où, on investit plus sur, on va dire, des enrobés, pas forcément sur des équipements annexes comme ça. Mais je trouve qu'on devrait commencer à faire rentrer ça dans nos mœurs. Construire des pistes cyclables, c'est devenu obligatoire quand on crée une nouvelle route depuis la loi sur l'air, ça date de 1996. On pourrait se dire aujourd'hui, quand on fait une nouvelle route, obligatoirement on met un crapaudrome par exemple.
Eh bien voilà des pistes pour l'avenir. Pascal Duyck, merci beaucoup et à bientôt dans Toucher Terre.
Merci à vous.